En compagnie de François Corriveau, candidat pour le Parti conservateur à l'élection fédérale du 21 octobre prochain. Monsieur Corriveau qui se présente, bien sûr, pour notre circonscription, la circonscription de Manicouagan. Bonjour, Monsieur Corriveau.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien.
Monsieur Corriveau, la campagne tire presque à sa fin. Il reste une semaine maintenant avant l'élection. Pour les gens de Fermont qui voudraient vous connaître un peu plus, j'aimerais qu'on y aille peut-être d'une petite présentation. Vous n'êtes pas un nouveau venu, notamment là, dans le domaine politique. Pouvez-vous vous présenter un peu pour les électeurs de Fermont?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai été député en 2002 avec Mario Dumont. C'était avec l'Action démocratique. J'avais été le premier député à me faire élire sous cette bannière-là. Ça faisait 8 ans que Mario était seul à l'Assemblée nationale. Alors, dans ses plus beaux souvenirs, quand ils ont fêté son 25e anniversaire d'élection, Pierre Bruno lui posait la question, puis il disait « C'est quoi ton plus beau souvenir? » Ben, il dit « C'est quand il y en a un deuxième qui est arrivé pour me trouver. » Alors, ça avait été vraiment un coup de tonnerre. Là. On avait réussi à briser le moule où qu'on pensait toujours que c'était la succession libérale et péquiste et libéral un après l'autre. Là, on est arrivé et on a dit non, il y a quelque chose d'autre qui peut se passer aussi. Puis ça avait vraiment été très intéressant. Comme moi, en tout cas, pour mon expérience à moi, là, j'ai bien aimé ça. Ça m'a appris là, les rudiments pas mal parlementaires. Au retour de cette expérience-là, ben, je suis revenu à la ville de Baie-Comeau. Puis j'ai une carrière là, de 25 années maintenant d'expérience dans le domaine du développement, surtout municipal, développement économique, développement touristique et culturel, sportif aussi. Je suis impliqué dans un paquet d'organisations dans la région, et entre autres Tourisme Côte-Nord là, qui rayonne partout là, dans les comtés de Duplessis et de René-Lévesque. Et ça fait 10 ans que je suis le directeur général à la ville de Baie-Comeau.
Donc,
j'ai un bon CV bien garni.
Oui, puis un homme de la région, donc. Et vous avez parlé, vous avez déjà fait de la politique. Qu'est-ce qui vous a amené cette fois-ci à vous lancer dans la campagne électorale fédérale 2019?
Ben, moi, c'est surtout, je commence à être tanné en tant que directeur général. On a un paquet de dossiers qui n'avancent pas. Les dossiers pour lesquels on aurait besoin d'avoir une députation qui a vraiment des entrées là, du côté d'Ottawa autant que du côté de Québec. C'est ça, là, j'avais une opportunité parce que le lieutenant québécois Alain Reyes est un ami là, de longue date. On s'était connus à l'Action démocratique à l'époque. Alors, quand Alain m'a appelé pour me demander d'être un candidat pour le Parti conservateur, parce qu'il avait besoin de gens comme moi dans son équipe autour de lui pour entourer Andrew Scheer, pour les aider aussi à prendre des bonnes décisions pour les régions. Les régions ont vraiment une place importante à l'intérieur de la plateforme du Parti conservateur. C'est que c'est là que je me suis dit, bon, ben je vais me lancer pour aider notre région là, à rayonner un peu plus que ce qu'elle fait là depuis 26 ans, pris dans l'opposition, là, bloqué toujours bloc après bloc. Ça nous avance pas à grand-chose. Puis les résultats parlent d'eux-mêmes. Là, il suffit de regarder autour de nous autres puis de voir les gens à quel point ils sont déçus puis qui ont l'impression que la région n'existe plus aux yeux des gouvernements. Là, comprendre que c'est bien normal là, quand ça fait 26 ans que tu es dans l'opposition, mais tu passes dans le top 10 des derniers. Là, il y a 338 députés au Canada. Il y en a 78 au Québec. Puis là-dedans, ben, il y en a 10 que c'est des bloquistes. Puis ils ont beau avoir la meilleure volonté du monde. La vraie game, là, ça se joue pas comme ils le pensent, là, à essayer d'influencer puis à rêver d'être dans un gouvernement minoritaire avec la balance du pouvoir. Là, ça, c'est pas la réalité. La vraie chose qui se passe à Ottawa, c'est que quand tu n'es pas du bon côté, que tu n'es pas du bord du gouvernement, ben, ce que tu obtiens, c'est des miettes, puis c'est juste là, c'est ta petite pitance à laquelle tu as droit minimalement, là, mais aussitôt que tu veux aller un petit peu plus haut, là, puis obtenir quelque chose de plus grand, avoir un pont, avoir la 389 qui débouche convenablement jusqu'à Fermont et plus haut, se connecter avec le Labrador, boucler avec le désenclavement qu'on veut interrompre là, du côté de Blanc-Sablon, entre Kagaska et Blanc-Sablon. C'est toutes des choses qu'on ne réussit pas à obtenir parce qu'on est toujours dans l'opposition.
Vous parlez de régions. On vous a entendu parler justement du plan des régions pour le Parti conservateur. Il y a notamment des engagements qui ont été pris pour mieux s'occuper des régions, notamment. Pouvez-vous nous parler un peu de ce plan-là qui, comme vous nous le disiez, vous a un peu séduit là, à embarquer dans l'aventure de la politique fédérale?
Ben, pour commencer, il va y avoir la reconstitution d'un ministre qui va être dédié au Québec pour Développement économique Canada. Chose qui existait à l'ancien gouvernement conservateur, mais qui avait été enlevée par M. Trudeau. Alors, on va remettre un un monsieur, là, qui, un monsieur ou une madame là, qui va s'occuper de ça comme, comme député. C'est le dernier qui l'a fait, c'était Denis Lebel et Jean-Pierre Blackburn aussi, là, du temps de M. Harper. L'autre affaire, c'est qu'on va avoir un ministre des régions et de la ruralité qui va avoir comme responsabilité vraiment de s'occuper de l'ensemble du monde rural et régional. Nous, notre réalité, c'est une réalité de ruralité. Là, les, toutes les petites municipalités qui composent l'ensemble de notre territoire, c'est immense. La Côte-Nord, c'est 247 000 km². Quand on compare au comté du premier ministre qui fait 9,9 km², là, qui tient dans 3 km par 3 km, c'est pas du tout la même réalité. Puis je comprends que le premier ministre Trudeau est complètement déconnecté de ce qui se passe parce que c'est sans aucune mesure. On est 24 000 fois plus grand que son comté.
Et donc, dans les régions, on a pu constater justement des problématiques qui parfois ont trouvé écho, parfois un peu moins du côté d'Ottawa. Qu'est-ce que vous prévoyez en fait pour justement, on parle beaucoup de dévitalisation, la Côte-Nord qui est une des seules régions au Québec où la population est en baisse, bilan démographique après bilan démographique. On a beaucoup parlé de rareté de main-d'œuvre et d'un autre côté, on a beaucoup parlé d'immigration également qui peut venir combler certains besoins de main-d'œuvre. Comment on veut jongler dans tout ça du côté du Parti conservateur, parce que ça peut être des enjeux importants justement pour les régions du Québec, de les revitaliser puis de ramener de la main-d'œuvre pour les services notamment offerts aux populations.
Bien, c'est clairement une priorité. La Côte-Nord, quant à moi, est la vache à lait du gouvernement, autant fédéral que provincial. On est là, puis on fournit nos ressources naturelles, autant le bois au niveau des mines, l'électricité, les pêcheries. Et en échange de quoi, bien, on obtient des miettes. Là, des fois, on va nous dire, oh, le Bloc a bien réussi, a quand même réussi à avoir des subventions. Oui, mais c'est ça, il obtient des nananes en rapport à notre vraie part. Notre proportion dans la contribution qu'on a à l'essor de l'économie canadienne, puis à l'exportation, puis au produit intérieur brut, fait en sorte que normalement, on ne devrait pas avoir à quémander, à se mettre à genoux, puis à commencer à dire, s'il vous plaît, faites-nous un pont, s'il vous plaît, faites-nous un chemin qui se rend jusqu'à Fermont, qui est asphalté. T'sais. C'est des affaires qui devraient être naturelles. Puis quand on se promène dans le monde, puis que on va en Norvège, par exemple, tu sais, des ponts, il y en a en Norvège, puis il y a des montagnes qui sont traversées par des tunnels avec des carrefours giratoires qui sont souterrains, puis des tunnels qui passent en dessous des fjords. Puis tout ça, ils l'ont fait dans le but de développer l'hydroélectricité dans ce coin-là de leur pays. Alors, nous, quand on a voulu faire de l'hydroélectricité une ressource majeure, ben ce qu'on a eu, c'est des miettes. Ils nous ont redonné seulement là, les petites affaires qu'on avait besoin. Eux autres, ils se sont fait des chemins en terre. En Norvège, ils ont fait des chemins en asphalte, puis des ponts, puis des tunnels. Là. Mais ici, là, c'est non. On va faire le minimum pour se rendre à la place où il y a une rivière. Là. Puis après ça, ben on va mettre des lignes électriques, puis on va sortir notre courant. Puis honnêtement, moi, ça, là, comme je suis plus capable, là, ça, honnêtement, ça me met en estime. Fait que c'est là où que ça me motive d'aller dans un gouvernement qui va être du côté du pouvoir, là, qui va pouvoir décider des choses, puis d'être assis à côté de ceux qui prennent les décisions depuis des années à notre place, puis de leur dire, wow, un instant, là, il y a un député maintenant qui est un député du Parti conservateur dans un gouvernement conservateur, puis on va prendre notre place, puis on va leur dire qu'est-ce qu'on veut avoir, puis de quelle manière qu'on veut l'avoir, puis les échéanciers. On a plus de chances que ça se réalise ça que ce qu'on a fait depuis 26 ans, parce que depuis 26 ans, on a un constat d'échec avec le Bloc. Alors, je me dis que c'est le temps d'essayer autre chose. C'est le temps d'aller le brosser à cage. Puis, si dans 4 ans, ça marche pas, ben les gens retourneront au Bloc encore, là, puis ils continueront de le maintenir sur le respirateur artificiel, ce parti-là. Mais là, pour tout de suite, c'est un parti qui, quant à moi, est un chien de garde qui ne fait pas son travail, qui est attaché après une niche dans le cours en arrière. Puis, de temps en temps, il donne un os à ronger pour pas qu'il jappe trop fort. Puis, on se contente de ça depuis un quart de siècle. Moi, là, j'en ai assez. Comme gestionnaire municipal, tout ce que je vois passer, ça me choque, ça m'insulte, puis ça m'insulte encore plus quand on me dit qu'il y a juste le Bloc qui peut représenter les intérêts de la région puis les intérêts des Québécois, parce que c'est pas vrai. J'en suis un Nord-Côtier, je suis né 2 pieds dedans, j'ai siégé à l'Assemblée nationale et j'ai vraiment le goût d'aller leur dire à Ottawa qu'on existe.
Vous avez abordé un peu le point des infrastructures, vous nous avez parlé un peu de routes et de choses qui avancent à certains endroits. On sait qu'il y a un besoin pour les infrastructures au niveau nord-côtier, on a parlé de désenclavement pas mal, c'est un des sujets chauds de la campagne. On parle du pont sur la 138, on parle du prolongement du pont sur le Saguenay et du prolongement de la 138. On a embarqué la couverture cellulaire également dans le dossier de ces infrastructures-là pour y amener une notion de sécurité aussi. La 389 est un lien qui est là, est un lien qui a besoin d'amour, qui a besoin d'amélioration. qui a peut-être besoin de couverture cellulaire également pour en assurer une certaine sécurité. Ça fait partie des infrastructures nord-côtières importantes au développement économique. On sait, à l'autre bout de cette route-là, il y a quand même un gros, gros levier économique avec les minières et tout le développement de ce côté. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour aider à l'amélioration puis au désenclavement, mais par le nord? On a beaucoup parlé du désenclavement est-ouest, mais par le nord également, il y a des choses, là.
En fait, moi, mon rêve, c'est de voir tout ça se boucler. C'est qu'une personne puisse avoir le choix de faire le grand tour puis de passer autant par Fermont avec la 389 que de passer par Blanc-Sablon avec la 138 puis d'être capable de... Tu sais, ils font le tour de la Gaspésie, ça fait des lunes. On est capable de faire le tour de notre côte nord aussi puis de donner une option ou d'ouvrir le territoire, de faire de la prospection minière à l'intérieur de ça pour trouver aussi d'autres ressources qui vont nous donner accès à une variété de provenance de minerais, parce que si on est juste dans le fer tout le temps puis qu'il y a une crise du fer, ben on est mal pris. Mais si tu es dans les terres rares, si tu es dans le lithium, si tu es dans les autres minerais, là, comme, je sais pas, le nickel, peu importe, là, name it, c'est autant de façons qu'on va pouvoir exploiter le nord puis avoir une fiabilité puis pas être tout le temps dans le fly-in, fly-out non plus, qu'il y a du monde qui vont vouloir habiter ce territoire-là parce qu'ils vont savoir qu'il y a des voies de sortie qui sont intéressantes. Les gens vont pouvoir avoir des projets de vie puis se dire que c'est pas une sinécure de partir de Fermont puis de descendre après ça vers les grands centres. Alors, il y a déjà de l'argent qui a été annoncé. On parle d'à peu près de 500 millions qui a été annoncé, mais ça commence à faire longtemps. Puis, on dirait que c'est au-delà de l'argent qui est annoncé, les projets tardent à démarrer. Il y a une couple de chantiers là, qui sont apparus un peu ici et là, mais il faut vraiment qu'on commence à voir quelque chose poindre à l'horizon, puis se mettent à y croire qu'ils sont en train de le faire pour de vrai. Là. Fait que ça, il faut suivre ce chantier-là. Comme les sommes sont déjà annoncées, ben il faut maintenant réaliser le travail. Du côté de Blanc-Sablon, la différence, ben c'est que les sommes n'ont pas encore été annoncées officiellement. Ça fait que c'est là où on se bat pour essayer d'en obtenir un peu de ce côté-là aussi. Le fédéral a mis 183 millions là, récemment pour le projet de la 389, mais c'est de l'argent qui vient réduire la facture de Québec. Alors, pourquoi que Québec ne prendrait pas l'argent qui est disponible et la remette dans le projet de la 389 pour rajouter 180 millions là-dessus au lieu de réduire sa facture? Ça pourrait améliorer encore plus là, les coins qui normalement étaient plus difficiles d'accès et qui ne faisaient pas partie de la soumission initiale.
On parle de transport beaucoup, M. Corriveau, au niveau nord-côtier. Il y a le dossier également du déplacement aérien. Il y a eu beaucoup de consultations, il y a eu beaucoup de mesures, il y a des remboursements, certains crédits pour les nord-côtiers. Est-ce qu'il y a des choses, il y a des priorités qui pourraient être revues pour un peu faciliter l'accès au transport aérien aux gens qui habitent dans les régions éloignées pour justement aussi donner un peu plus accès facilement aux grands centres et au reste du Québec?
Oui. Ben, moi, personnellement, je pense que la question du transport aérien va vraiment tourner aussi autour de la question de l'accessibilité au territoire pour les touristes. Plus qu'on va avoir de gens qui vont venir, puis pas seulement pour faire du fly-in, fly-out là, à des heures régulières qui font partie des conventions collectives de nos minières, là, mais également des heures qui conviennent à une population en déplacement qui est pour autre chose que pour les affaires, là, qui est plus pour le tourisme, ben ça va ça rendre le service aérien beaucoup moins coûteux. C'est pas compliqué. Là. Quand il y a de la concurrence, puis quand il y a du volume, ben on baisse les prix. Alors, il faut aller vers ça. Tourisme à Côte-Nord a développé quelque chose d'intéressant au cours des deux dernières années pour obtenir, par exemple, qu'un couple qui partirait de France puis qui arrive à Montréal peut débarquer à Montréal pendant quelques jours, reprendre l'avion à partir de Montréal puis s'en venir sur la Côte-Nord. Puis il n'y aura pas de frais. Mais ça, c'est avec Air Canada. Là. Ou des frais très minimes, d'à peu près 150 $. Il n'y a pas besoin, le couple, de racheter un billet à 800 $ par personne pour partir de Montréal puis s'en venir vers cette île ou vers Bécomo. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il est capable d'avoir une forfaitisation qui serait vraiment adéquate pour que le touriste qui part de France, bien, il est capable de se rendre jusqu'à Fermont de manière raisonnable, dans des coûts qui sont très raisonnables, puis pouvoir quand même faire des escales en chemin pour visiter différents autres aspects de notre territoire. Fait que donc, augmentons la clientèle qui va vouloir se déplacer. Il y a une super belle campagne qui a été faite cette année avec ATR Manicouagan, ATR Duplessis aussi, le Tourisme Côte-Nord, avec Julie Bélanger. puis ça fait découvrir notre territoire, ben c'est en publicisant notre territoire, en le faisant connaître aux gens du Québec puis aux gens d'ailleurs dans le monde, qu'on va réussir à séduire, puis même à amener de nouveaux travailleurs, des gens qui vont avoir le goût par une expérience de tourisme positive, peut-être de dire, ben j'aimerais ça, moi, m'établir dans ce coin de pays-là, venir faire, par exemple, l'acquisition d'un gîte, l'acquisition d'un petit restaurant, de travailler dans un volet touristique pour développer un produit particulier, faire connaître notre région. J'ai croisé des Belges, il n'y a pas longtemps, là, qui, eux, étaient sur la Côte-Nord, puis ils disaient vouloir s'en venir ici, déménager pour un projet de retraite, mais en achetant un petit gîte. Fait qu'il y avait découvert le coin, puis on était tombé en amour. On a une qualité de vie qui est vraiment là, incomparable. Quand on regarde du côté de Montréal, où les gens sont pris pour aller travailler, c'est une heure et demie, pogné dans le trafic, des fois deux heures, le matin puis le soir, aller porter les enfants dans un CPE, puis c'est interminable. Encore les enfants qui sont dans l'auto pendant trois quarts d'heure, une heure pour aller, pas à l'école, mais au CPE le matin. Moi, je comprends pas comment les gens font pour vivre dans des circonstances comme ça. Je suis à 6 minutes de mon travail ici, puis à Fermont, c'est pareil pour vous. Là, 5 minutes, 10 minutes, puis on est rendu partout. Tu roules 15 minutes, puis tu es rendu en dehors de la municipalité, puis tu peux aller prendre une marche dans le bois, puis il y a des beaux sentiers, puis on a des lacs, on a des rivières. C'est ça la vraie mesure. C'est entre grandeur et démesure, là, la thématique de tourisme Côte-Nord. Mm-hmm. Puis cette démesure-là, moi, c'est ce qui me donne aussi le goût de participer, de contribuer, d'embarquer dans la vie politique, puis de faire connaître ça ailleurs au Canada, parce qu'ils n'ont vraiment pas l'air de savoir comment ça existe ici. Puis de la vraie nature, il y en existe encore, puis la fin du monde, ben, elle n'est pas encore arrivée. Là. Puis on a quelque chose de beau ici, puis il faut le protéger, puis il faut le mettre en valeur aussi, puis faire connaître.
Il y a beaucoup d'enjeux reliés à cette campagne électorale-là, M. Corriveau. Un des enjeux dans Manicouagan, c'est la grandeur du territoire. J'ai envie de vous demander comment vous avez trouvé ça de faire campagne dans une aussi grosse circonscription.
Ah, c'est l'enfer. Écoute, c'est quelque chose. Moi, j'ai pas pu, Dave Savard, qui est professeur candidat là, ici pour le Parti libéral, Dave, il est professeur au Cégep. Fait que puis Marilyn, ben, elle est députée déjà à plein temps, elle. Fait qu'ils ont eu tout l'été pour pouvoir se promener. Alors que moi, ben, comme directeur général de ville, il fallait que je ferme mes dossiers puis que je prépare la campagne électorale. Puis on s'est mariés, moi puis ma blonde, au mois d'août, juste avant, le 10 août, juste avant de commencer la campagne. Moi, j'ai commencé le 15 août. Donc, on a eu 5 jours entre le mariage puis le début de la campagne. Fait que là, ben, quand j'ai commencé à regarder tous les déplacements qu'on avait à faire, c'est pointable, juste aller-retour à cette île, à Natashquan, partout que la 138 nous permettait de se promener, on y allait. On a essayé de placer Fermont à l'intérieur de ça. Puis les trois occasions qu'on avait, on s'est fait mettre d'autres débats à l'intérieur de nos plages horaires. Ça fait que c'était plus possible d'aller à Fermont puis de revenir. Puis c'est quelque chose que je regrette parce que le territoire est immense. J'aurais voulu dire oui, je suis allé partout, puis malheureusement, j'ai pas pu aller partout. C'est quelque chose que je ferai une fois que je serai député, que j'aurai mon job à plein temps comme député. C'est clair qu'il va falloir que j'aille me présenter à des endroits où je suis pas allé. C'est vrai que Fermont va être la première des municipalités où je vais aller faire un tour. C'est clair. C'est Chefferville, Basse-Côte-Nord, c'est des coins qui sont difficiles. Puis l'automne, en plus, avec les problèmes de bateaux, avec Bella de Gagny, ça coûte cher. Ça, c'est l'autre élément aussi, là, quand on a une campagne électorale de cette ampleur-là, de trouver les sous pour réussir à aller partout, c'est vraiment pas évident. Ça constitue un défi. Je parlais de 247 000 km² tantôt. Là. Évidemment, c'est pas tous des kilomètres habitables, là, mais on a ici une proportion de 5 km² par habitant, alors qu'une place comme le premier ministre Trudeau a 11 000 habitants par km². C'est toute la différence. Ça. C'est un non-sens. On peut pas faire du porte-à-porte partout. On est plus souvent en voiture qu'en train de serrer les mains, malheureusement.
Ben oui, absolument, avec l'immensité de ce territoire-là. Et en terminant, M. Corriveau, l'important, lundi prochain, 21 octobre, c'est qu'on invite les gens à aller voter, à aller faire un choix pour représenter Manicouagan à Ottawa.
Ben oui, il faut voter, il faut se décider. Parce qu'au fond, on n'a rien que deux choix. C'est est-ce qu'on veut que M. Trudeau reste en place ou est-ce qu'on veut le remplacer par quelqu'un d'autre? Puis le seul autre individu capable de le remplacer, ben c'est Andrew Scheer. Alors, une fois qu'on a décidé, OK, on remplace Trudeau par Andrew Scheer, est-ce qu'on veut faire partie d'un gouvernement avec Andrew Scheer et essayer de l'influencer à l'intérieur de ce parti-là, ou est-ce qu'on veut continuer de rester en opposition comme on fait depuis 26 ans, puis continuer de crier, puis de chialer, puis de dire ça marche pas, puis maudit, notre région n'arrête pas de décliner, puis on comprend pas personne pourquoi que ça arrive, alors que c'est tout simplement parce qu'on est encore pogné dans cette opposition-là qui ne fonctionne pas pour notre région.
– Merci beaucoup, M. Corriveau, du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui, puis on vous souhaite une excellente fin de campagne.
C'est un plaisir, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.